Bienvenue à Angle Mort, un épisode juteux aujourd'hui, savoureux. Non, j'ai beaucoup de choses. Alors, j'ai passé mon tour hier et puis je vous annonce que cet été, ça va arriver d'autres fois. Parce que y a réellement moins de sujets qui m'interpellent. C'est notamment cette semaine, c'est une semaine tranquille. T'sais. La semaine prochaine, je vais être à Québec, du dimanche au mercredi ou au jeudi, quelque chose comme ça. Ça fait que ça, évidemment, je vais quand même faire mes épisodes. Je vais peut-être vous parler là, de... Je sais pas, ça va être un autre environnement. Mais hier, sérieusement, j'ai tout fait comme d'habitude. Je me lève le matin, j'ai tout lu mes affaires. Puis c'était comme, tu sais, des sujets mous, contrairement à aujourd'hui, je trouve, ou qu'il y a du jus. Ça fait qu'attendez-vous à ce que ce soit pas 5 jours par semaine jusqu'au 30 août, qui est la date où je reprends la radio, puis donc qui est la date où est-ce que... Fait que j'essaye de le faire, mais tant qu'à vous faire un truc de 8 minutes un peu popoche, t'sais, c'est comme j'aime mieux passer mon tour. Puis ça a un effet bénéfique parce que aujourd'hui, depuis hier, je connais mon thème. T'sais, fait que c'est ça. Merci à ceux qui ont acheté des tickets pour le 30 juillet, le Angle Mort Live. Alors, c'est très gentil. Je veux juste vous dire qu'il y en a juste 32 à vendre, donc ça va aller vite. En tout cas, merci à vous tous. MarcBoilard.com pour vous procurer vos billets si vous voulez être avec moi le 30 juillet, un vendredi. Ça fait que ça, c'est bien cool. Là, je commence par... mon sujet aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne vous ai jamais parlé, qui sont mes croyances, ou à vrai dire, mes non-croyances. Je n'ai jamais parlé de ça. Je vais vous dire pourquoi, entre autres. Mais tout d'abord, dans le Journal de Montréal aujourd'hui, on parle d'un site web qui s'appelle stopmtl.ca. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi ils ont choisi ça. Stop Montréal, donc stopmtl.ca. C'est l'initiative d'une chercheuse crédible qui s'appelle, que je ne connaissais pas, mais qui est reliée à l'Institut de la statistique, ou en tout cas un truc de même, avec, entre autres, les collaborations de différentes universités, Concordia, entre autres. Elle s'appelle Caroline Côté-Lucier. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est une carte où n'importe qui peut aller dire... J'ai été interpellé par la police. Voici comment ça s'est déroulé. Et est-ce que je trouve que mon altercation, mon interpellation, à défaut d'être une arrestation comme telle, juste mettons, tu sais, genre vos papiers, identifiez-vous s'il vous plaît. Est-ce que je trouve que c'était justifié? Alors, c'est fantastique. Je trouve ça vraiment fantastique. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une étude plus idéologique que ça. C'est impossible. C'est le record que j'ai vu à date. Venant de quelqu'un de crédible, c'est pour moi spectaculaire. Alors, dans un premier temps, parce qu'on va le décortiquer, ça. Ben, là, vous tombez dans un sujet que j'aime beaucoup, là, qui ressemble à mon livre. L'important, c'est ce que les autres pensent. D'abord, j'ai pas besoin de vous dire qu'il y a aucune preuve de la réalité de ce qui va être compilé dans ce site-là. Donc, en un mot, je peux totalement inventer une altercation, pas une altercation, une interpellation. Qui, 99 % du temps, n'est pas noté par les policiers eux-mêmes. Donc, ça fait preuve d'aucune documentation. Donc, moi, le soir, je peux me lever, ou le soir, je peux me coucher, aller sur stopmtl.ca, puis inventer que j'étais à la Chine, que je me suis fait arrêter par 2 policiers qui m'ont demandé mes papiers, puis que je trouve que c'est injustifié. En partant, c'est le mot « farfelu » me vient en tête, pour juger de la validité de ce qui va être compilé dans ce site-là. Deuxièmement, on demande si l'arrestation, on juge que c'était justifié. Alors, quand on demande sur TripAdvisor d'aller coter un restaurant, un resort, un hôtel, etc., oui, on peut dire qu'il manquait 2 poids dans mon assiette, puis finalement, je trouve que c'est un restaurant pourri. On peut, à la rigueur, être très sévère. Mais au départ, tout ce qui s'appelle coter un service dans le domaine les plus cotés, c'est-à-dire le tourisme et la restauration, je dirais, c'est des affaires où l'expérience est supposée être positive. Si tu dis « je suis allé dans tel hôtel, j'ai pas aimé ça », à la base, l'hôtel veut que ça soit positif. Le service est là pour que ça soit positif. Donc, si tu dis que c'était négatif, c'est quand même aller à contre-courant. Or, une interpellation policière, ça n'a absolument aucune velléité de positivisme. À part dire qu'on essaie d'être oui, poli, bonjour, c'est pas un vendeur de chez Yellow, là. c'est une police. Ça veut dire que il est possible que son travail requiert une dose de, par exemple, de devoir insister ou peu importe. Alors, imaginez si on demande aux gens, dans un contexte qui est à la base une expérience négative, c'est-à-dire que ça se veut pas positif par nature, parce que c'est pas l'objet de la finalité qui est de le maintien de l'ordre. C'est pas de rendre les gens heureux, là. C'est le maintien de l'ordre. Faut pas mélanger les affaires. Ça fait que déjà, ça, c'est la norme. S'il faut en plus que tu demandes si tu trouves que cette expérience qui en soi est porteuse de négativité, faut que tu demandes si c'était justifié. C'est fantastique. Ça veut dire que tu peux inventer une histoire, mais l'autre degré, c'est que non seulement l'histoire n'est pas obligée d'être inventée, elle peut être réelle, mais on te demande si tu crois que c'était justifié. Et deuxièmement, je dirais troisièmement, quels sont les critères pour dire si c'est justifié? Parce que dans le site en question que je suis allé voir, on demande juste « est-ce que c'était justifié? » Mais qui est réellement au courant de ce qui est justifiable ou pas dans une interpellation policière? Alors, c'est ultra subjectif. Vous vous demandez jusqu'à quel point, je vais vous donner un exemple. Ma sœur, OK, qui n'est pas là, une junkie ou telle affaire, une dame très respectable, qui a travaillé dans le domaine de la santé toute sa vie, etc., très brillante. Ma sœur, un jour, a dit, moi, on parlait du sujet, je ne sais pas comment c'est arrivé, elle dit, moi, j'ai déjà vécu de la violence policière. Violence! Elle n'a pas dit, oh, j'ai trouvé ça désagréable, ça. Elle dit, la violence policière. Ah, ouais, mon Dieu. C'est quoi? Ben, elle dit, à un moment donné, j'ai brûlé un stop, la police est arrivée, puis elle a été vraiment bête avec moi, puis je me suis excusé, puis elle a dit, elle est restée bien bête, elle a fait, écoutez, madame, c'est pas comme ça qu'il faut conduire, puis telle affaire, tout ça. Ben, j'ai dit, il a été probablement impoli, selon tes critères, mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a de violent. Oui, c'est violent, parce que moi, ça m'a causé un stress, etc. Voyez-vous, là, elle rentre dans... stop montréal.ca. Et là, elle rentre une expérience qu'elle juge violente. Et là, après ça, entre ça et dire, mon Dieu, il y a de la violence dans la police, c'est la porte à côté. C'est tout ça pour vous dire que quand on dit, voici quelqu'un là, d'envergure qui a fait des hautes études, etc., oubliez jamais qu'à la base, il y a de l'idéologie partout. Je serais très curieux que Mme Côté-Lucier nous dise qu'elle est pro-police, que son père était dans la police, que c'était caché. D'après moi, mais ça encore là, c'est de la pure inférence, ça vaut rien. D'après moi, c'est quelqu'un qui ne traite pas tant que ça sa police puis sur les façons de faire de la police. Ce qui fait que tout à coup, là, on va jusqu'à s'inventer une façon de collecter des données qui n'ont aucune validité, mais d'aucune façon. Alors, je ne suis pas en train de dire quel problème insignifiant qu'il ne faut pas traiter. Moi, j'ai rien contre être capable de mesurer quoi que ce soit dans la vie, incluant le travail des policiers, incluant leur état. J'ai aucun problème. Mais c'est une façon farfelue. J'espère qu'aucun pouvoir politique ou que la police ne va pas accorder la moindre importance à ça, parce que, à la rigueur, c'est un portrait qui est tellement biaisé en partant. C'est une assurance que tout ce qui va être là va être de l'ordre du négatif ou du très négatif. Imaginez, là, en terminant, imaginez quelqu'un qui dit « Ah ben tabarouette, je suis tellement content, grâce à stopmtl.ca, je vais pouvoir aller dire à quel point on m'a demandé tantôt mes papiers, puis c'était fantastique. Je vais vraiment aller prendre le temps. » C'est pareil que d'espérer que quelqu'un rentre dans un magasin au Best Buy en se disant « Je cherche un fil d'iPhone », il va voir dans la section iPhone, il n'y a pas de fil, puis il s'en va voir le gérant pour dire « Monsieur, je veux juste prendre le temps de vous dire, je l'aurais acheté le fil, mais vous ne l'avez pas en inventaire. » Non, les gens s'en vont, c'est tout. Ça fait que, moi, en tout cas, je trouve ça extraordinaire. C'est comme, à droite comme à gauche, à bâbord, à tribord, il y a tout le temps, il faut tout le temps checker si c'est-tu vraiment ça que ça veut dire. Gars, je lisais de quoi dans CNN.com tantôt? Il disait que la carte de la pandémie aux États-Unis, maintenant, c'est carrément le calque de la carte de la politique. C'est-à-dire que tous les États typiquement républicains, c'est eux autres qui sont les plus anti-vaccins, etc. Puis il y a un gars, je pense que c'est Mitt Romney, qui disait, comment ça se fait que Donald Trump et ses sbires se vantent à raison que c'est eux autres qui ont mis du cash dès le départ pour avoir un vaccin le plus possible, puis que c'est cette gang-là qui se fait le moins vacciner? Bien, parce que, justement, quand c'est le temps d'appuyer un point qui fait ton affaire sur la conclusion politique de tes allégeances, là, c'est fantastique. Puis quand tout à coup, ce point-là fait plus ton affaire, là, c'est, il faut tout le temps, c'est une... ça sert à ça, angle mort, à quelque part. Je vous en parle, puis je me rends compte, c'est à ça que ça sert. Ça sert pas à dire, ça, faites ci, faites ça, ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Ça sert juste à faire comme... ça se peut-tu que ce qu'on prend tout à coup comme étant, ah, ben, coudon, c'est de même, que c'est pas de même temps que ça, là. Bref. C'était même pas mon sujet principal. Mon sujet principal, c'est qu'hier, je suis allé voir le film The Conjuring 3. La conjuration, hein, je pense qu'il dit... je me demande si c'est un vrai... en tout cas, et les deux premiers sont très, très bons, vraiment bons. C'est vraiment des excellents films d'horreur à la niveau de... à la niveau... j'ai de la misère un matin. Au niveau de Insidieux, la série Insidieux, il y en a quatre. Trois et quatre sont pas... sont bons, là, mais c'est pas la fin du monde. Mais un et deux, c'est des espèces de très, très, très bons films d'horreur. Vraiment un peu à la Hit, là, tu sais, le film du clown. Avec des univers, là, tu sais, genre, tu t'en vas dans un autre monde, et puis avec des tu sais, les monstres, entre guillemets, les fantômes, les appelle-les comme tu veux, sont... tu sais, c'est ça, c'est très coloré. C'est des très bons films. C'est vraiment... c'est tough, hein, faire un film d'horreur, je l'ai toujours dit. C'est très, très difficile, parce qu'il y a beaucoup de degrés où tu peux l'échapper. Tu peux l'échapper dans la réalisation. C'est-à-dire qu'une comédie, quand même, que j'ai mis la caméra à droite ou à gauche, bon, dans la mesure où on voit le monde puis que les timings sont pas morts. Mais un film d'horreur, tout à coup, tu le filmes mal, puis là, c'est plus aussi épeurant, là. Ça fait qu'hier, je vais voir le troisième, tu sais, en après-midi. C'était une journée vraiment un peu moche, là. Moi, il faut dire que les chaleurs m'affectent énormément. Les journées chaudes, là, comme on a depuis un bout de temps, là, câline que ça me ralentit. C'est l'enfer. Ça a toujours eu cet effet-là, d'ailleurs. Quand c'est humide puis lourd, là, tabarouette. Ça fait dur, mon affaire, mais bref. Ça fait que là, je fais comme, regarde, la marge, je vais au cinéma. Ça fait que... et pendant le film, c'est toute une histoire, évidemment, de, tu sais, de démons. Puis là, il y a une phrase, tout à coup, qui dit, si vous croyez en Dieu, ça serait normal que vous croyiez aux démons, tu sais. Puis là, j'ai fait, hey, c'est ça mon sujet, je l'aurais jamais dit. En quoi je crois? Ben, mesdames, messieurs, je crois en strictement rien. Je suis passé même d'agnostique à athée. C'est-à-dire que... agnostique, ça veut dire qui croit en rien, puis mais tout se peut. C'est-à-dire que je suis comme je vote blanc. J'annule mon vote. C'est-à-dire, est-ce que Dieu existe? Peut-être. Effectivement, je peux pas prouver la non-existence de Dieu. Mais sa preuve est inexistante. C'est que là, ceux qui disent, ah oui, non, regarde la création. Puis non, arrêtez, là. Il y a aucune preuve. Savez-vous quoi? Il y a même pas de preuve de l'existence de Jésus. Moi, j'ai longtemps cru que Jésus était... historiquement prouvé, rien, zéro. Zéro, zéro, zéro. C'est tout à fait possible que ça a été une invention, puis que là, je rentre dans le truc, en tout cas, c'est Saint Paul qui est le premier, Paul de Tarse, de son nom, qui 75 ans après la mort présumée de Jésus, aurait écrit les premiers, puis qui a lancé un peu le christianisme, si tu veux. Donc, tu sais, c'est pas Jésus qui a lancé ça. Lui, il est mort, c'était fini, ciao, bye. Puis ça a été repris dans les histoires, puis là, bon, blablabla. Ça fait que... donc, moi, je suis passé d'agnostique à... voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, il y a... dans toutes les... alors, commençons par dire que moi, c'est un sujet qui me fascine. Alors, c'est bizarre, hein? Athée complètement, mais le sujet me fascine. J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour les religions. Tous les soirs, j'écoute des conférences de Michel Onfray. Il y a un côté ASMR de tout ça, là, ça m'endort. Mais qui parle beaucoup de toute cette période-là, là. La période chrétienne, la période de la montée de l'islam, etc., c'est des choses qui m'intéressent énormément, pour des raisons obscures. Je sais même pas pourquoi, mais ça date de très, très, très longtemps. J'avais genre 25 ans, puis je m'intéressais à ça. Et puis, ce que j'ai appris, c'est que... ben, ce que j'ai appris, dans le fond, c'est un constat, c'est juste que c'est pas de quoi qu'on s'arrête à tous les jours, mais que la définition d'une civilisation, OK, parce que ce soit les Égyptiens, les Mayas, les Européens, la civilisation musulmane, c'est toutes des civilisations différentes, hein, qui ont vécu différemment, ils ont deux caractéristiques. De un, c'est qu'une civilisation, c'est ce qui s'agrège autour d'un texte sacré. Donc, quand tu regardes la définition des civilisations, tu fais comme, hey, c'est vrai, ils ont tout un texte, un livre différent. Le Coran, la Bible, le Talmud, tout ce qui était le sacré des dieux, les Grecs qui étaient polythéistes, tu sais, c'est tout écrit à quelque part, ou du moins c'était une tradition orale, mais qui était très forte. L'équivalent de ce qu'on peut appeler un texte sacré. C'est-à-dire, ça, c'est sacré, c'est nos croyances. Ça, c'est universel à l'homme. Et la réponse est dans le deuxième critère, c'est-à-dire que toutes les religions croient à un après-monde, la vie après la vie, que ce soit la réincarnation, que ce soit les 75 vierges des musulmans, que ce soit le paradis avec le purgatoire, que ce soit toutes les offrandes qui étaient faites auprès des Aztèques, les Mayas, etc., que ce soit les sarcophages des Égyptiens, partout. Et moi, je dis que le deuxième point explique le premier. C'est-à-dire qu'il y a une angoisse inhérente à l'être humain de dire « ça se peut pas que ça soit fini quand je meurs, c'est comme, il y a de quoi là-dedans qui est pas vivable, alors inventons-nous donc une vie après. » Sauf que moi, je crois rien de ça. Zéro, je retiens rien. Puis j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'une... Il y a un bon gag que mon chum Nicolas m'a conté. Il dit « c'est quoi la différence entre une religion puis la spiritualité? » Il dit « la religion, c'est quand t'as peur d'aller en enfer, puis la spiritualité, c'est quand t'en reviens. » C'est tellement bon. Combien de personnes, tu sais, ont eu des passe-tof, puis tout à coup, ils ont découvert Jésus. Bon. Ça fait qu'écoutez, mon vrai problème, c'est pas je crois pas, t'as la femme. Mon vrai problème, c'est que, on dit souvent, ouais, mais il faut respecter les croyances des autres. Je veux dire, dans la vraie vie, je le fais, là. Ça me dérange 0, 0, 0. Puis j'ai jamais de grands arguments avec quelqu'un qui croit en Dieu ou whatever. J'ai pas de problème avec ça. Mais il reste que le mot respect, j'ai de la misère à le prendre. J'ai de la misère à respecter ça. Comprends-tu? Je respecte pas quelqu'un qui pense que la Terre est plate. Je respecte pas quelqu'un, surtout dans la période qu'on a passée, là, qui capote puis qui est anti-vaccin pour tout. J'ai fait mes recherches YouTube puis tout ça. Je peux pas avoir de respect pour ça. Comprenez-vous? Je peux m'en foutre. Je peux le tolérer. Je peux me dire, ben, who cares? Tu sais, je peux avoir, à la rigueur, du dédain. Mais je peux pas avoir du respect. Je peux pas respecter quelqu'un qui dit « moi, je crois en Dieu basé sur rien, basé sur un vieux livre que ma mère m'a dit que c'était la vérité parce que sa mère lui a dit, et ainsi de suite, jusqu'à il y a 2000 ans. » Tu sais, c'est pas respectable. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça fait que c'est éveillé, là. Je comprends que c'est extrêmement insultant pour quelqu'un qui croit. Mais quand vous mettez dans mes chaussures, que tu dis « ouais, mais tout ça, ça tient à de l'air, là. Ça tient à rien, là. » C'est comme juste parce que c'est écrit. Hein? Oui, c'est écrit. Moi, je peux t'écrire un roman, puis ça ne veut pas dire que c'est vrai. Là. Ça fait que je trouve juste que le choix du mot, pour moi, il est difficile. Je le fais en toute transparence, puis je sais que c'est pas cool pour bien du monde qui m'écoute. Puis vous avez le droit, là. Ça, vous avez le droit, puis j'essaierai même pas de vous faire changer d'idée, puis c'est pas matière à chicane. Je fais juste vous dire, mettez-vous à ma place. Quand j'entends dire, ah oui, il faut respecter les si... Respecter... C'est parce que ça reste qu'au final, c'est quand même complètement absurde. C'est d'une absurdité sans nom. Tu sais, il y a un dieu, puis là, il y a des miracles, puis on voit au ciel. Puis pensez à ça deux secondes, là. C'est n'importe quoi. Alors là, que ça aide des gens à mieux vivre, ça aide tout ça, bon, tant mieux, ça me dérange pas. Puis sérieux, les gens ont vraiment pas besoin d'avoir ma position, là. Toutes les positions, ça me pose aucun problème. Mais... est-ce que c'est par définition respectable? Ben, pour les gens qui y croient, bien entendu, oui. Mais pour les gens plus pragmatiques qui se disent, moi, dans la vie, je peux, par exemple, je peux respecter des opinions politiques très opposées aux miennes, que je pense qu'ils sont dans le champ, etc., mais je respecte ça en me disant que j'insulterai pas. Je regarde Duhem, là, qui arrête pas de se faire tomber dessus, c'est l'enfer. Ben, je veux dire, peut-être vous trouvez que ces positions sont vraiment dommageables. Mettez ce que vous voulez, mais répondez-y. C'est que moi, je crie pas de nom, là, aux gens qui croient en quoi que ce soit. Je fais juste dire que c'est difficile pour moi de dire... Tu sais, c'est juste être conséquent. Est-ce que vous respectez quelqu'un qui est à... Parce que là, on parle pas d'être à l'opposé d'une idée ou l'autre. On est dans, clairement, des balivernes pour lesquelles vous avez quand même choisi d'adhérer. Mais avec aucune preuve de rien, puis il n'y en aura jamais. Ça fait que tu fais... C'est-tu respectable? On joue ses mots. C'est pas important. Le point, c'était juste vous dire ma position. Parce que je vous en avais jamais parlé. Ça fait que... Puis croyez ce que vous voulez, au final. Hein. Vous savez que, très honnêtement, là, comme je dis tout le temps, quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un trop. Mais je vais finir quand même sur un truc. C'est hallucinant à quel point presque tous les problèmes actuellement qu'on vit, là, partout sur la Terre, sont causés par des croyances pas prouvées. Ceux qui sont anti-vaccins, les guerres de religion, les talibans, l'État islamique, toute la gang qui était pro-Trump, évangélique, alors qu'il y avait un individu incroyable en face d'eux autres, mais qui pardonnait tout parce que lui, il nous permet d'avoir ce qu'on veut avoir, etc. C'est hallucinant à quel point, dans un monde où la science, depuis le siècle des Lumières, avance constamment puis nous permet tout le temps d'avoir des réponses à tout ce qu'on pensait qu'on n'en aurait pas, de voir cet état-là, c'est misérable. L'être humain, quelle espèce misérable. C'est-à-dire que oui, doté d'intelligence, puis qui construit, puis qui fait des affaires incroyables. Le God Virgin, là, Branson, qui est arrivé avec son avion, tout, tu regardes ça, tu tabarouette. Elon Musk qui envoie des fusées, puis il réatterrit droit. Droit comme un tuteur pour un plant de tomate. Tu fais « Hein! » Puis après, là, tu regardes toutes les petites croyances, des petites gueguères de patentes basées sur rien, tu fais « C'est fantastique. » Savez-vous quoi? Il y a une théorie. Tu sais, on se demande, y a-tu de la vie ailleurs? Écoutez bien ça, je finis là-dessus. Il y a une théorie qui dit, j'oublie le nom, qui dit que la raison pour laquelle, peu importe où on va regarder, il n'y a pas de vie dans l'univers, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais eu. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y en a, il y a une forme de vie qui finit par être intelligente et elle porte en elle son autodestruction, comme nous autres avec le climat ou le nucléaire. Ça fait que c'est comme un surplus d'intelligence. C'est pas être câble, c'est pas être non-intelligent. Mais il reste qu'à un moment donné, c'est fantastique. Alors, sur ce, écrivez-moi et à bientôt.